BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on a le gouvernement qui sonne la charge cette fois contre les panneaux photovoltaïques chinois qui inondent littéralement le continent européen. Bruno Le Maire a dévoilé un plan ce matin pour relancer la filière française. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Sinon, alors on vient d'apprendre que Tesla renonce à lancer finalement une voiture électrique à bas prix. Projet sur lequel Elon Musk comptait beaucoup, notamment pour aller concurrencer les acteurs chinois. On verra ça dans quelques secondes également avec Raphaël Coudet. On parlera tout ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure. On parlera avec eux de ce rapport qui nous le confirme s'il en était encore besoin. Pour s'adapter au réchauffement climatique, il va falloir investir beaucoup de milliards tous les ans dans le bâtiment, dans les transports et dans l'agriculture, même s'il est très difficile de chiffrer ça concrètement. Et puis on parlera intelligence artificielle. Là, c'est un rapport d'Adecco qui nous le dit clairement. Les entreprises ne forment pas assez leurs équipes sur le sujet, soit parce qu'elles n'ont pas les managers pour ça, soit parce qu'elles n'en ont pas l'intention, tout simplement. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Très bonne soirée.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Donc Bruno Le Maire encore à la manœuvre aujourd'hui. Cette fois, il était à Manosque sur un parc photovoltaïque d'EDF parce qu'il a annoncé qu'il avait l'intention de relancer la filière française qui est en grande difficulté. Écoutez le ministre de l'Économie et des Finances.
L'objectif, il a été fixé par le président de la République. Il est très clair, 100 gigawatts de production d'énergie solaire à horizon 2050. La proposition de PPE de fin d'année dernière envisage même d'avancer cette cible avec un objectif entre 75 gigas et 100 gigas d'ici 2035. Ce plan de bataille pour le solaire doit donc reposer sur un objectif de long terme, les 100 gigawatts d'ici 2050, et des objectifs annuels immédiats. Être capable de déployer 6 gigawatts de capacité en plus chaque année, c'est-à-dire le double de ce que nous avons fait en 2022, le double de ce que nous avons fait en 2023. Il faut accélérer, accélérer, accélérer.
Voilà Bruno Le Maire aujourd'hui du côté de Manosque. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Il est très ambitieux comme toujours Bruno Le Maire, mais concrètement là comment est-ce qu'il va s'y prendre Thomas?
Alors déjà pour déployer autant de panneaux solaires, le ministre a annoncé 4 mesures. Déjà un, approuver beaucoup plus vite, beaucoup plus de projets. Ensuite, accélérer l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments. Publier aussi un décret pour faciliter le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, donc développer ça. Et enfin, lancer des appels à projets pour installer aussi du photovoltaïque dans certaines zones du réseau routier.
La vraie question, c'est comment est-ce qu'on contre la concurrence chinoise? Là, qu'est-ce qu'il nous dit Bruno Le Maire concrètement?
Alors, effectivement, il y a le sujet du déploiement, mais il y a aussi le sujet de produire en France. Ouais. Bruno Le Maire a fixé un objectif aujourd'hui qui est de produire chez nous 40% de nos panneaux solaires d'ici à 2030. C'est exactement le même objectif que s'est fixé la Commission européenne. Aujourd'hui, on est quasiment à zéro, effectivement, vous le disiez, à cause de la concurrence chinoise. D'ailleurs, les panneaux solaires, on a écouté Bruno Le Maire là à Manosque, les panneaux solaires qui étaient derrière lui venaient de Malaisie. Et donc, pour relocaliser, voilà, le symbole...
On était chez EDF,
effectivement. Donc, le symbole, évidemment, n'a pas été choisi au hasard par le ministre. Et pour remédier à cela, il a fait trois annonces. D'abord, des subventions, justement, comme les Américains, comme les Chinois, on va s'y mettre. Le gouvernement va accorder jusqu'à 200 millions d'euros aux futures gigafactories de panneaux solaires de Le Solis. Ça, c'est en Moselle, dans le Grand Est. Et puis de Carbone à Fos-sur-Mer, pas très loin. Ces deux projets représentent potentiellement 2,2 milliards d'euros d'investissement et 4 600 créations d'emplois. Donc un, des subventions. Deux, l'exécutif va faire dans ses appels d'offres photovoltaïques pour le bâtiment exactement la même chose que ce qu'il fait pour le bonus écologique pour les voitures électriques, c'est-à-dire exclure les fabricants qui ne respectent pas nos normes. Nos normes environnementales, en l'occurrence, et autrement dit, évidemment, la Chine. Et enfin, le gouvernement va mettre en place d'ici à fin 2025 des quotas de panneaux solaires français ou européens dans ces appels d'offres publics, là aussi exactement comme le font les Américains et les Chinois.
Voilà donc le plan de Bruno Le Maire pour relancer la filière photovoltaïque en France. Merci beaucoup Thomas. Alors Bruno Le Maire qui a fait ses annonces avant le week-end parce qu'il se trouve que dimanche, c'est le ministre du Commerce chinois qui arrive à Paris. Et alors figurez-vous qu'il va venir avec des représentants des plus grands groupes automobiles locaux, BYD et Geely. Ils viennent pourquoi? Pour plaider leur cause, ces constructeurs, pour que l'Europe laisse rentrer plus de véhicules électriques que ce qui était prévu. Vous savez que Bruxelles a ouvert une enquête il y a quelques mois contre les subventions accordées par Pékin à ces fameux géants précisément. On en reparlera évidemment d'ici lundi sur BFM Business.
Et Bruno Le Maire le verra lundi après-midi en l'occurrence.
Et Bruno Le Maire le verra lundi. Donc on vous racontera ça bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. 18h04, je vous le disais, ça vient de tomber. Tesla qui abandonne son projet de voiture à bas prix. Bonsoir Raphaël Couder.
Bonsoir Guillaume.
C'est quelque chose sur lequel misait beaucoup Elon Musk pour concurrencer les constructeurs chinois, sauf que l'agence Reuters nous dit ce soir, bah, il abandonne tout simplement. Hein.
Oui, c'était un projet complètement confidentiel, mais un projet qui avait quand même commencé à se concrétiser. En janvier, Tesla avait envoyé des demandes de devis à ses fournisseurs pour produire cette nouvelle voiture à partir de la mi-2025. Voiture qui était décrite en interne comme un crossover compact d'entrée de gamme et donc attendue à un tarif abordable. On le sait, Elon Musk cherche depuis longtemps à produire des voitures moins chères. En 2020, il y a 4 ans, il promettait déjà une voiture à $25,000. Ce projet devait donc représenter l'arrivée de la marque américaine sur le marché grand public. On le sait, c'est un enjeu important pour Tesla. La concurrence est de plus en plus forte. Le chinois BYD a par exemple dépassé l'américain au rang de premier constructeur mondial de voitures électriques au dernier trimestre de l'année dernière. Depuis, Tesla a repris la première place, mais voilà, les challengers se multiplient. Le géant du smartphone Xiaomi vient lui aussi de sortir son premier modèle à bas prix et le groupe a déjà vendu 100 000 unités sur les premières 48 heures de précommande.
Voilà, grosse annonce ce soir du côté de Tesla et Wall Street n'apprécie pas vraiment puisque le titre perd aux alentours de 3%, titre Tesla du côté de la bourse de New York. Merci beaucoup Raphaël Couder avec nous. Les Chinois, vous savez, je vous rappelais qu'ils sont dans le viseur de l'Europe, les Chinois qui se sont fait tacler alors chez eux à Pékin la nuit dernière par Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, qu'il a dit très clairement près de Pékin, les subventions que l'État chinois verse aux entreprises, ça crée de la surproduction et c'est vraiment très dangereux pour l'économie mondiale. Écoutez Janet Yellen.
Construire une relation économique saine demande des règles équitables pour tous les employés et les entreprises américaines. Nous devons ouvrir des canaux de communication dans les domaines où nous avons des désaccords. And this includes the issue. Cela concerne la subvention industrielle chinoise. Les États-Unis et d'autres pays sont inquiets des effets sur l'économie mondiale.
Voilà, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain. Puisqu'on parle des États-Unis, on a eu tout à l'heure les chiffres de l'emploi américain pour le mois de mars. 303 000 emplois créés le mois dernier. Les analystes n'en attendaient que 200 000. Taux de chômage est passé de 3,9 à 3,8%. Tout ça à quelques mois, bien sûr, de l'élection présidentielle américaine. 18h07, on vient en France avec cette grande question. Combien est-ce que ça va nous coûter le fait de devoir nous adapter à un réchauffement climatique de 4 degrés ? C'est l'Institut de l'économie pour le climat qui vient de rendre au gouvernement un rapport sur le sujet. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est difficile de chiffrer tout cela, mais en tout cas, mieux vaut prévenir que guérir, d'une manière générale. Léo Dumas.
Impossible d'établir un coût unique pour le moment, mais les experts révèlent de premiers ordres de grandeur pour s'adapter dans trois secteurs. Celui du bâtiment d'abord, où il faut investir entre 1 et 2,5 milliards d'euros de plus chaque année dans la construction neuve. Il s'agit principalement de résister aux futures vagues de chaleur en renforçant isolation et ventilation. Pour les transports ensuite, les estimations montent jusqu'à quelques milliards d'euros. Tout dépend en fait du niveau de risque que l'on retient, car rendre une route insubmersible est plus cher qu'interrompre temporairement la circulation en phase de crue. Enfin, 1,5 milliard d'euros est nécessaire, là aussi, tous les ans, dans l'agriculture, si l'on veut préserver les rendements actuels. Des montants significatifs, mais qui ne forment pas toutefois un mur d'investissement, soulignent les experts. Ils appellent le gouvernement à accélérer sur l'adaptation qui reste moins coûteuse que la réaction post-événement climatique, estimée, elle, à $70 milliards ces 30 prochaines années.
Voilà, la meilleure assurance, c'est encore d'investir le plus en voilà pour ce rapport de Life4CE rendu public aujourd'hui. Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Et puis alors tenez, puisqu'on parle d'assurance, ça aussi c'est un gros sujet. Est-ce qu'il serait possible que demain, les entreprises françaises ne soient plus forcément couvertes en cas de cyberattaque ? Parce qu'en croire l'AMRAE, qui est l'association des risques managers, les assureurs risquent apparemment d'être de plus en plus tatillons, on va le dire comme ça, sur le sujet. Caroline Morisseau.
Les assureurs ne sont pas tenus d'assurer toutes les cyberattaques. Comme dans beaucoup d'autres secteurs de l'assurance, la guerre et donc les cyberguerres ne sont pas couvertes. Un problème qui risque de prendre de l'ampleur dans le contexte géopolitique actuel. Et alors que les cyberattaques provenant de Russie sont régulièrement pointées du doigt. Encore faut-il démontrer l'origine de l'attaque. Et c'est là que le bât blesse pour nos entreprises françaises. En France, et c'est un cas particulier, c'est à l'entreprise de prouver qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque liée à la guerre. Ce qui, même pour une grande entreprise, est quasi impossible, explique l'un des responsables de l'AMRAE. Partout ailleurs en Europe, c'est à l'assureur d'apporter des preuves, faute de quoi il se doit d'indemniser. Dans ce contexte, les grands groupes réfléchissent à s'assurer à l'étranger, auprès des Lloyd's britanniques par exemple, qui elles ne sont pas soumises à la législation française. C'est en revanche plus compliqué pour les PME. Autre problème, ces délocalisations risquent de tuer définitivement le marché français de l'assurance cyber, qui peine déjà à décoller et qui repose essentiellement sur les primes versées par les grands groupes. L'AMRAE a alerté Bercy afin de modifier la législation française.
Lynn Morisseau, deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, Apple qui a licencié plus de 600 personnes en Californie fin mars. D'après l'agence Bloomberg, ça serait lié à l'arrêt des projets, vous savez, dans le véhicule électrique. Ça serait la première fois, en tout cas, qu'Apple supprime des postes depuis la pandémie de Covid. Et puis, cette annonce de Meta qui nous dit que dès le mois de mai, le groupe commencera, ça y est, à identifier et signaler des images, des vidéos, des sons qui seraient générés par le biais d'une intelligence artificielle. Ça sera clairement stipulé et ça concernera l'ensemble des réseaux sociaux du groupe. 18h10, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, bonsoir Étienne. Étienne Braque, Euronext à la Défense pour BFM bonsoir. Business. Comment ça s'est terminé ce vendredi, mon cher Étienne ?
Du rouge, que ce soit en données journalières ou hebdomadaires, vous avez un CAC 40 qui perd du terrain, moins 1,1% ce soir à la clôture, à 8061 points. Figurez-vous que c'est la plus forte baisse du CAC 40 depuis le 3 janvier dernier. En données hebdomadaires, vous avez un CAC 40 qui perd 1,9% sur la semaine. Il faut revenir au mois d'octobre pour retrouver une telle baisse hebdomadaire à Paris, avec notamment un rapport sur l'emploi américain qui a été très solide. Les États-Unis ont créé 300 000 postes le mois dernier, alors que le consensus s'attendait à 200 000 créations de postes. Plusieurs membres de la Fed qui doute un petit peu sur les baisses de taux cette année. Il se demande si c'est vraiment nécessaire de baisser les taux aussi vite qu'annoncé il y a quelques jours. Et puis, dans le même temps, un marché qui se réajuste, qui estime désormais à 50% qu'il y aura une baisse dès le mois de juin, alors qu'il y a une semaine, le marché estimait à 70% une première baisse de taux dès le mois de juin. Donc tout ça, eh bien, est prétexte à des prises de bénéfices, d'autant que vous avez un pétrole qui est sur des plus hauts du mois d'octobre à $92 le baril de Brent. Alors ça profite à Total Energy qui est sur des plus hauts historiques. Figurez-vous que la valeur a touché pour la première fois les 67 euros aujourd'hui. Mais ça inquiète notamment les tensions au Moyen-Orient quand vous voyez aujourd'hui le Hezbollah qui juge inéluctable la riposte de l'Iran suite à l'attaque il y a quelques jours d'Israël d'une ambassade en Syrie. Donc suite à cela, vous avez une pression politique, géopolitique plutôt, qui revient sur les devants de la scène et ça propulse l'once d'or sur des records historiques, puisque vous avez l'once d'or qui s'échange à l'instant à $2,350 une once d'or. Donc un CAC 40 qui fait une petite pause après ses nombreuses incertitudes, moins 1,1% ce soir à la clôture, 8061 points pour l'indice parisien.
Merci beaucoup Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, la mi-séance évidemment sur le marché américain, le Dow Jones qui progresse d'1%, 38 979 points. Et puis l'indice Nasdaq qui grappille 1,5%, 16 293. Tout ça à la mi-séance. 18h13, on revient avec nos experts. Beaucoup de choses. La folle semaine des économies. Beaucoup de ballons d'essai, beaucoup de pistes. Le dossier des PFAS, l'effervescence est retombée. Et puis l'intelligence artificielle. Apparemment, beaucoup de managers n'ont pas l'intention de former leurs équipes, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit parce qu'ils n'ont pas les équipes pour ça finalement. Tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 19h. Bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h15, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts, pour refaire l'actu du jour, bien sûr de la semaine aussi, ça sert à ça le vendredi. Xavier Patrolin est avec nous, bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, président d'Albatros Capital, Jackie Isabello, bonsoir Jackie.
Bonsoir Guillaume.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, et Dominique Corona. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Secrétaire général adjoint de l'UNSA. Merci messieurs d'être là pour refaire l'actu de la semaine, entre autres, qui a été riche avec cette chasse aux milliards, vous avez vu, qui nous a tenus en haleine. Et c'est pas fini, chaque jour Il y a eu un ballon d'essai, une proposition, les jours de carence, vous avez eu les rangs, vous avez eu l'assurance chômage. Bah oui, parce que, écoutez, ce que rappelait encore François-Xavier Bellamy ce matin pour les Républicains, tête de liste LR pour les Européennes, il faut absolument réduire notre dépense publique, c'est une question de crédibilité. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Autant pendant la période du Covid, tous les États européens se sont endettés fortement pour faire face à la crise, autant en ce moment, ils sont tous en train de se désendetter. Et donc la France aujourd'hui a une trajectoire qui est très singulière en Europe et qui contribue à la rendre malheureusement très fragile dans le débat européen comme dans l'équation économique européenne.
Et le Premier ministre promet de revenir dans les clous d'ici 2027, vous le croyez ?
Mais j'aimerais pouvoir le croire. La question, c'est que faisons-nous pour cela ?
Il va le dire la semaine prochaine, normalement.
Et il y a finalement deux options très simples sur la table. La première option, c'est celle qui consiste à faire ce que le gouvernement a fait depuis longtemps, celle qui consiste à poursuivre la stratégie ou l'absence de stratégie dans laquelle la France est aujourd'hui, c'est-à-dire augmenter encore les prélèvements obligatoires, faire en sorte que l'État puisse prélever encore plus d'argent pour
éponger
son déficit budgétaire. Et ça, c'est évidemment impossible. C'est non. Mais j'en sais rien. J'aimerais bien que ce soit
non. Le gouvernement l'écarte, en tout cas.
Mais en même temps, le Premier ministre nomme une mission avec 4 députés pour aller taxer les rentes. Alors qu'est-ce que c'est que les rentes ? J'aimerais bien qu'on m'explique.
Ah bah ça tombe bien, c'est la question que je vais vous poser dans un instant. D'abord, non sur le climat ambiant, les ballons d'essai tout au long de cette semaine pour faire des économies, quelques milliards, comme ce que vous avez regardé cette séquence-là, ininterrompue. C'est pas fini. Hein,
c'est pénible. Non mais c'est très pénible, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses. Enfin, comment voulez-vous que les Français puissent avoir confiance en leur homme politique, dans la façon dont ça fonctionne ? C'est insupportable. Dois-je rappeler que le budget a été voté, du moins approuvé par 49.3 en décembre, fin décembre, et qu'un mois et demi après, on nous dit « Oh, il manque de l'argent !» Mais on se moque du monde. Et les Français, il ne faut pas les prendre pour des idiots. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de transparence. On ne nous parle pas exactement de comment la dette est constituée, de quel investissement on peut faire. Je crois qu'il n'y a que les partenaires sociaux, finalement, qui sont encore crédibles dans ce moment. C'est incroyable, quand même.
Jackie, vous êtes d'accord avec François-Xavier Bellamy ? Il n'y a pas de stratégie, toujours et encore, finalement, on en revient toujours au même point.
On en a tellement parlé ici, je crois beaucoup à la fonction des hommes politiques. Je pense que c'est un métier compliqué et que leur boulot, puisqu'ils assument le leadership dans un pays, et notamment le leadership de conduire une classe d'âge ou plusieurs classes d'âge vers l'avenir, et la bonne maîtrise des dépenses publiques et des finances publiques, c'est essentiel. Et que depuis quelques années, on a l'impression que c'est distribution de cadeaux, et un peu comme papa et maman à un moment doivent jouer leur rôle de parents dans la famille, eh bien les hommes politiques, eux, ne savent plus dire à un moment non, on arrête, on a fait le quoi qu'il en coûte, maintenant il faut envisager d'autres options. Et donc c'est une espèce de projection en avant qui ne dit pas les choses comme elles sont, jusqu'à ce qu'on attende que des intervenants extérieurs, des Standard & Poor's, des Fitch, nous disent « Vous savez pas très bien compter ». Évidemment qu'on le sait. Et je rejoins M. Bellamy sur ce point-là, mais on l'a devancé, Guillaume, depuis des mois sur ce sujet et sur votre antenne.
Hein. J'ai acheté le concours Lépine aussi, c'était l'expression de Clément Beaune cette semaine, Xavier Patrolin, un concours Lépine des propositions des ballons d'essai. On est en plein dedans, là, clairement.
Ouais,
jours de carence dimanche dernier...
Oui, c'est vrai. Je vais recaler le propos de Monsieur Bellamy. Si je puis me permettre, il a tort du point de vue du macroéconomique, parce que si tous les pays européens cherchent à être, si j'ose dire, vertueux, je mets le terme entre guillemets, ça conduit à des excédents partout et ça ne marche pas. Hein, si on déclinait à l'échelle mondiale, ça voudrait dire qu'on est en excédent par rapport à la Lune. Quoi. Donc, au contraire, il y a des complémentarités. Par contre, ça ne change rien au fait que probablement les équilibres budgétaires français se dégradent. Mais il faut identifier les causes. Et je crains qu'aujourd'hui, dans l'urgence, on ne cherche pas vraiment à identifier les causes. Au fond, il y a deux causes. Il y a une première cause structurelle qui est la désindustrialisation, entamée à partir du milieu des années 80 et qui a continué inlassablement, qui fait que la part industrielle dans le PIB national représente moins de 10%. Donc ça, c'est un socle extrêmement de fragilisation. Ensuite, il y a eu le choc Lehman Brothers, qui a été un accélérateur de ce phénomène. Et puis, il y a deux, sur une structure déjà fragilisée, il y a deux chocs qui sont des chocs titanesques, qui ont été le Covid, puis le choc inflationniste post-guerre russo-ukrainienne, et qui a fragilisé les équilibres de recettes et de dépenses budgétaires français. Donc c'est ça qu'il faut adresser. Mais il ne faut pas agir dans la précipitation. Donc je suis bien d'accord sur l'opération vérité. Elle est compliquée. Comment voulez-vous avoir une opération vérité si la première instance de la représentation nationale est privée de débat. L'utilisation du 49.3.
Si je me permets de juste modérer un peu, je ne pense pas entendre ça dans votre bouche, Xavier. Pendant quelques années, tous les disciples de Stéphanie Kelton, avec la théorie monétaire moderne, disaient de toute façon, la dette, maintenant, c'est plus un sujet, c'est même une vertu de s'endetter jusque. Je reprendrai votre analogie par rapport à la Lune. Non, je suis désolé, mais on a quand même été quelques-uns à dire c'est pas raisonnable, c'est pas comme ça que ça peut se passer, les taux d'intérêt augmentent. Non, je ne pense pas avoir lu ça dans le début de votre propos, et je me permets de préciser cet aspect.
Mais la France a des la France a des singularités sur la scène ça la dédouane pas, mais a des singularités sur la scène européenne. Elle a des singularités industrielles, elle a des singularités démographiques, elle a des singularités sur le taux d'activité de la population active, elle a des singularités géopolitiques. Quoi qu'on puisse en penser, notre parc nucléaire, à la fois civil et l'arme nucléaire militaire, induisent toute une série de contraintes que n'ont pas nos autres partenaires. Et on le voit bien que dans l'accélération géostratégique à laquelle nous sommes confrontés depuis 2 ans, ces atouts qui étaient condamnés d'une certaine façon par nos pairs européens sont des avantages. Donc il faut y aller avec très grande prudence. Alors, et je pense qu'on fait une erreur à faire ce concours Lépine. Et puis, on fait un concours Lépine avant même d'avoir diagnostiqué ce qui s'est vraiment passé, notamment au cours de l'année 2023, sur le déséquilibre des recettes et des dépenses.
Ah, voilà, c'est là ça qu'il faut, c'est ça qu'on fait mine d'avoir découvert un petit peu de retard en 2024.
Et je voudrais rappeler
Dominique Corona,
que M. Le Maire était certes pas ministre du budget en 2008, 2009, 2010, mais il était ministre effectivement à ce moment-là. Même cause, même effet. On a tué la croissance en 2008 en vouloir faire des politiques d'austérité très rapides. Et on l'a tué à long terme. Et il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Et moi, je suis très inquiet parce que je revois les mêmes choses arriver. Et on voit que dans les entreprises, ça commence à se tendre vraiment. Voilà. Et puis après, je suis totalement aussi d'accord avec vous, on n'a pas les mêmes contraintes que les autres pays européens. On a l'arme nucléaire, on a une armée de métiers. D'autres pays ont moins de frais que nous sur ces sujets. On a un rôle particulier en Europe sur ces sujets-là, justement. Et ça nous coûte de l'argent. Et donc, peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on réfléchisse au niveau européen de comment, effectivement, on pourrait avoir une péréquation plus globale, parce qu'on ne peut pas assurer non plus la sécurité de tous les pays. Il faut le faire, hein. Mais il faudrait que tout le monde puisse, effectivement, y participer. Voilà. Et puis, dernier point, il me semble, mais comparaison n'est pas raison, que la dette des États-Unis est à plus de 6%. Et je ne crois pas que le président Biden ait envie de la baisser pour le moment.
Mais ils ont le dollar, à peu près.
Le privilège excessif du dollar.
Ils y vont.
Bon. Mais juste rappeler, parce qu'on est quand même sur BFM Business. Souvent, on dit, oui, l'État ne gère pas, alors que dans les familles, dans les entreprises, on dit, c'est pas pareil. Mais rappelons quand même, parce qu'ici, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Si un chef d'entreprise présentait un dérapage tel à son commissaire en compte, il décroche son téléphone, il lui dit, je signe pas les comptes, et deux, je suis limite à appeler le procureur de la République, parce que ce sont des chiffres qui sont inavouables.
Mais nous avons la Banque Centrale Européenne.
On a quand même une Cour des comptes. Manquons pas de rappeler qu'il faudrait que la Cour des comptes ait la capacité, à un moment, de dire stop. On signe les comptes dans une entreprise, il faudrait que quelqu'un puisse le faire en France.
Je suis pas du tout en accord avec vous. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la démocratie en France. La Cour des comptes, c'est pas la démocratie. La Cour des comptes, c'est effectivement des magistrats qui peuvent dire un certain nombre de conseils, etc. Mais c'est pas à eux de sanctionner, effectivement, sur des budgets ou des choses comme ça.
Sur l'expression de la démocratie, M. Corona, quand même.
Mais sur l'expression de la démocratie...
Nos institutions sont la représentation de deux siècles et demi de démocratie.
Je pense qu'il faut être très vigilant. La problématique, et là où je pense que vous avez raison, c'est le rôle de la démocratie aujourd'hui dans les affaires budgétaires. Comment on peut accepter qu'on présente un budget avec des erreurs de cette sorte, au bout d'un mois et demi. Et là où je suis d'accord avec vous, moi je suis effectivement chef d'entreprise, j'appelle mon DAF s'il a fait ça, j'y écoute, on a un problème dehors. Non mais là je suis d'accord avec vous. Sûr. Et c'est à ce niveau-là peut-être qu'il faudrait regarder un peu ce qui s'y passe.
Bien, 4 minutes, puisque Xavier disait tout à l'heure, on est dans la précipitation, on est à la petite semaine sur ce débat des rangs. Je ne vais pas vous demander ce qu'est une rente, parce que je vais vous donner 30 secondes chacun. Mais comment est-ce que vous regardez un petit peu la mission qui vient d'être confiée à Monsieur Cazeneuve, 4 députés qui n'ont pas tous forcément la même conception des choses. Certains disent on n'ira pas au-delà de la rente inframarginale des énergéticiens, d'autres si, il faut voir plus large. Voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on va se sortir de cette histoire?
Il y a quand même un constat que l'on peut faire, c'est qu'à la sortie de la crise du Covid et de la crise russo-ukrainienne, il y a, on va dire, 3 grands acteurs. On a les entreprises, les grandes entreprises, qui affiche des records de rentabilité exceptionnels.
Donc exceptionnel. Là,
exceptionnel historiquement. Donc on peut s'interroger, et même en taux d'endettement, on peut même s'interroger donc sur les conditions de cette rentabilité. Excessif, pas excessif, sur profit, pas sur profit. On a les particuliers qui, globalement, ont été en moyenne protégés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes de paupérisation, notamment avec le phénomène inflationniste. Il y a bien des parties de la population qui souffrent, mais on va dire en moyenne, il y a eu une relative protection. On peut pas. Et puis, on a le protecteur, d'une certaine façon, l'État, qui, lui, ressort fragilisé. Le truc, dans le débat dans lequel nous sommes confrontés, c'est comment on rétablit les équilibres entre ces trois grands acteurs, d'une certaine façon, le tissu industriel, les personnes physiques et l'État. Et on voit bien que le tissu industriel, le monde économique et les personnes physiques vont devoir faire un effort, renvoyer l'ascenseur, tout simplement parce que si l'État n'avait pas été là au moment du Covid, si l'État n'avait pas, par sa politique sanitaire, même s'il y a eu de très grandes faiblesses en France, je ne vais pas ici me faire un panagérique des dysfonctionnements, mais globalement l'État a été très utile, l'État et la construction européenne, des institutions européennes. C'est moi qui le dis. Bon. Et les particuliers qui ont été protégés avec le bouclier tarifaire au moment du choc inflationniste, on voit bien qu'il y a un renvoi d'ascenseur et que la situation de dégradation budgétaire à laquelle nous sommes confrontés est probablement la conséquence de ce que j'ai décrivais avant, des problèmes structurels, mais aussi des actions conjoncturelles qu'a mené l'État au cours de ces deux chocs exceptionnels. Ayons comme idée qu'on a eu en moins de deux ans deux chocs de nature hors norme. Oui. Un choc dépressionnaire, déflationniste. S'il n'avait pas été combattu, ça aurait été là, des créations, destruction d'emplois, chômage et terrible. Et un choc inflationniste aussi rapproché en aussi peu de temps. Alors vous me direz, il y a d'autres États qui s'en tirent plutôt bien en Europe, mais ça ne change rien au fait que le dispositif français a été copié par nos pairs européens.
Absolument.
Hein, et donc, alors, la France a pas été. La France, bizarrement, n'est pas un contre-exemple du point de vue des dispositions qu'elle a prises. Elle les a prises de manière plus intense, mais ce n'est pas un contre-exemple.
Dominique Corona.
Avec une double peine pour les assurés sociaux que nous sommes. Dois-je rappeler ici que l'État a demandé à la Sécurité sociale de prendre en charge un certain nombre, effectivement, de dépenses telles que la perte de chiffre d'affaires des médecins qui sont libéraux, que nous payons, nous, avec nos cotisations sociales, et qui n'a pas remboursé. Donc, il fait peser... Et en plus, quand on va aller encore bien plus loin, il veut réformer l'assurance chômage pour effectivement taper une fois de plus sur les plus faibles. Alors qu'en parallèle, quand vous êtes un Français, que vous écoutez des informations où on vous dit dividendes qui explosent, je crois qu'on est à 68,7 milliards d'euros pour les entreprises françaises du CAC 40 pour CAC 2023, 40.
Le CAC 40.
Sans les rachats d'actions. Okay. Quand on vous dit que, et on avait débattu ici sur ce plateau, que le CAC 40 explose il y a trois semaines, qu'il n'avait jamais autant effectivement fait des bons, je crois qu'il a pris plus de 15 points en 6 mois, me semble-t-il.
Oui, en 4 mois, en 3 mois.
Ou en 3 mois. Et vous allez dire à côté de ça aux Français, attention, on est presque la Grèce, on est en train de d'être en faillite.
Non, ça, ce sont les LR, c'est pas la parole gouvernementale.
Le gouvernement le dit aussi, mais il nous a fait
c'est
le même coup.
Qui nous a dit ça.
Il nous a fait le même coup sur la réforme des retraites, où il nous a dit je dois réformer les retraites parce que j'ai Standard & Poor's qui va effectivement donner une note à la France. Je crois qu'il veut toujours taper sur les mêmes, et je crois qu'il n'en a jamais assez, et que donc avec les agences de notation, dès que les agences de notation vont vouloir noter, alors c'était les retraites, je vous disais chômeurs, et après demain ça sera quoi ?
Jackie Isabello là-dessus.
Ouais, donc on ne donne pas la définition de la rente marxiste.
Ben je ne sais pas. Non, de la rente tout simplement.
Travail, la sur valeur, mais.
Oui. On y passe le temps. Non, qui va payer quoi, dans cette histoire ? Est-ce qu'on va s'en tenir aux énergéticiens ou est-ce qu'on va
avoir plus loin ? Je vais poursuivre une partie de la démonstration de Dominique Corona. Je pense que le boulot du politique, c'est quand même peut-être de inspiré de certaines mécaniques des partenaires sociaux. Quand les partenaires sociaux, par exemple, gèrent les retraites complémentaires, ils disent les retraites, c'est du stock, c'est pas du flux. C'est-à-dire qu'il faut programmer sur 15 ans la gestion d'une classe d'âge avec des éléments macroéconomiques qui sont très importants. Le gouvernement sait plus faire ça. Dès qu'il y en a qui disent, ok, les agriculteurs, tiens, je vous donne du fric. Hop, les gilets jaunes, je vous donne du fric. Aujourd'hui, on a des problèmes de productivité. On a des problèmes de démographie. On les connaît, les enjeux qui vont nous être présentés. On va parler d'intelligence artificielle tout à l'heure.
Vous avez plus de stock, vous n'avez plus rien, vous avez plus de stock.
Et donc, l'État et les hommes d'État doivent gérer un pays en ayant cette notion de stock et de se dire qu'il y a des choses qui se pilotent comme un porte-avions. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Et par rapport à ça, et je conclurai, les partenaires sociaux, sur les retraites complémentaires, en 2015, ils disent... On va pas tenir, on va pas pouvoir payer les retraites de la génération suivante. Donc, on impose la CGT, la CFDT, le MEDEF, l'UDEP, la CPME, ensemble, disent,
on taxe de 10%. Les retraités râlent, mais à la fin, ça continue de fonctionner et il y a des excédents. L'État sait plus faire ça. Aujourd'hui.
Si Dominique va vous suivre sur ce coup-là.
Nicolas, c'est sur un malus qui est annulé. J'aimerais que l'État gère. Mais je suis totalement d'accord. Et moi, j'alerte. J'alerte sur l'état du pays.
Je vous ai tendu la bonne perche.
La colère qui monte. Vous savez, vous avez raison. Nous avons été des millions à manifester contre la réforme des retraites, qui est toujours injuste, que nous combattons toujours. L'État n'a rien fait. Par contre, quand il y a les agriculteurs descendent dans la rue, quand il y a les gilets jaunes, quand il y a un peu de violence, l'État, effectivement, écoute. Et nous, on a alerté le Premier ministre, on a vu le Premier ministre dans son bureau, on lui a dit, attention, on nous a commencé à nous demander d'acheter des tracteurs. C'est-à-dire que nous, on veut bien être sérieux, raisonnable, à manifester gentiment, etc. Mais un peu de considération, un peu de considération pour les partenaires sociaux, un peu de quête de dialogue social, un peu de concertation. Parce que sinon, effectivement, c'est le chaos derrière. Et nous, on a extrêmement peur de la tension dans le pays que nous sentons.
Allez, il y a eu beaucoup de ballons d'essai cette semaine pour retrouver des milliards. Il y en aura sans doute autant la semaine prochaine, 18h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h35, on est reparti. Jacques Isabello, Dominique Corona et Xavier Patrelin avec nous, les experts jusqu'à 19h. Alors, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez regardé cette séquence fugace des PFAS, vous savez, ces polluants éternels dont l'utilisation à échéance de quelques années a été votée hier à l'Assemblée, avec une exception notoire pour les ustensiles de cuisine et notamment les poêles Tefal. Je voudrais vous entendre là-dessus. Écoutez, Valérie Hier, tiens, tête de liste Renaissance aux Européennes, elle l'a dit ce matin, on a fait le job, mais c'est l'Europe qui doit faire le travail désormais. Écoutez.
On a commencé à y travailler au niveau européen. Et je pense qu'il faut qu'on accélère. On a demandé à la Commission européenne d'avoir des propositions concrètes pour l'année prochaine. Donc ça va se traduire dans les faits très, très prochainement.
Ça va prendre un peu plus de temps ?
C'est la mécanique européenne, c'est la logique. On a une proposition sur la table, on discute à 27 au Parlement européen. C'est compliqué, il faut le dire. En tout cas, c'est le jeu de la négociation. On a fait beaucoup de choses sur le précédent mandat, parfois en des temps records. Je crois qu'on a intérêt, sur ce sujet-là comme sur d'autres, à légiférer au niveau européen. C'est comme ça qu'on est plus efficace et qu'on a une harmonisation, évidemment, des réglementations.
Et pas tant de séquences qui nous a tenus en haleine 3 jours, qui est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Ça dit quoi finalement, une séquence aussi ?
Non, mais ça c'est un propos où on abdique, j'allais dire, j'ai employé un terme, je vais le mettre entre guillemets une nouvelle fois, la souveraineté. Ouais. Si c'est au fond, nous sommes face à des responsables politiques, certes députés européens, mais qui représentent, qui font la représentation nationale au travers de l'agora européenne, mais ils représentent les intérêts français. Donc là, ce dont on parle, c'est l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt de santé. Bon, la santé, pour le coup, ça relève pas de juridiction européenne. S'il y a un risque, s'il y a des externalités négatives sur ces PFAS avérées, voilà, c'est la seule chose. Moi, la France est tout à fait capable de prendre des dispositions. C'est au niveau de sa subsidiarité, ça touche ses intérêts vitaux. Point barre, on prend cette décision. Là, ça se fait dans la précipitation, au travers d'une navette parlementaire, avec une préparation assez faible. Moi, sur la contre-proposition du groupe SEB, je l'ai trouvée, fragile, et au fond, elle trahissait quelque chose. De deux choses.
Pas une impréparation, déjà.
Peut-être, mais peut-être aurait-il bon pour le groupe SEB, à la fois, d'expliquer les conséquences macroéconomiques, emploi, nanana, bon, ça, c'est OK. Mais d'expliquer simultanément qui travaillait sur le sujet et qui avait potentiellement des risques et qui préparait la prochaine étape. Là, on avait uniquement un discours défensif de dire ne touchez pas à la réglementation parce que ça va mettre en cause
3000 emplois dans la balance.
Des emplois. Oui. J'allais dire, c'est pas la question posée. Alors certes, c'est une question posée par des parlementaires en loose day au travers d'une navette. Bon, ok. Mais quoi qu'il arrive, il y a une question de santé publique. Quand il y a une question de santé publique, on répond à la question de santé publique. Et après, on gère les conséquences. Mais on va pas annihiler la réponse de santé publique uniquement au nom du développement économique. Donc là, je trouve que c'est fragile. Et alors, quand on regarde un petit peu dans le détail, la liste des composés, alors là, on parle de 12, 15 000 composés dans cette famille générique. Et il dit, si on voit 15 000 composés et on renvoie ça au niveau européen avec 27 acteurs, et vous attendez une réponse dans combien de temps ?
Ah bah Valérie Hier l'a dit, voilà, c'est le temps.
Non, mais, au rugby, on appelle ça botter en touche. Oui. On ne répond pas à la question. Donc nos concitoyens qui écoutent ça se disent, il y a un risque, et ce risque pour l'instant n'est pas traité par les juridictions françaises.
Jackie, vous faites confiance à l'innovation d'un groupe comme le groupe SEB, justement pour répondre assez vite au sujet, même si bon, on imagine qu'ils bossent sur le truc depuis un certain temps quand même.
Bah, de toute façon, ce sujet des PFAS, il est sorti depuis quelques années. Moi, je le suis depuis quelques années sur les aspects un peu communication, parce que quand j'ai vu arriver ce sujet, je me suis dit comment ils vont s'en sortir, parce que là, c'est l'émergence de quelque chose qui est structurellement complètement neuf. Ce qui est très compliqué pour les gens, c'est que on leur a expliqué il y a quelques années qu'on avait fait un gros travail qui a abouti à l'élaboration de ces fameuses directives REACH, vous savez, où les chimistes et l'ensemble des intervenants avaient défini tout un tas de molécules et envisagé si elles étaient nuisibles ou pas. Et ce sujet-là, quand on disait tout à l'heure que le gouvernement et les pouvoirs publics ne savaient plus gérer en stock des sujets, eh bien, à la fin, c'est sur une émotion, l'emploi, la fin du mois, que finalement, le gouvernement est obligé de reculer. Alors, comme le disait Xavier,
fin du mois versus sujet, fin du monde, hein,
c'est le sujet est quand même un sujet de santé publique. Nonobstant le fait que on ne comprend plus rien au risque auquel on est soumis. Parce que regardez aujourd'hui, quand on se lève le matin, on nous dit, ah, l'eau dans les bouteilles, c'est plus sûr que ce soit bon. Tiens, je vais me faire un petit steak, je me suis mis à la muscu, il faut que je prenne des machins. Ah ben non, attention, il y a du perclos, machin, truc, des PFAS. Donc ça veut dire que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire au bout d'un moment? Ils vont se déconnecter de sous ces sujets, parce que la dimension anxiogène de ce qui nous est proposé fait qu'on ne va plus accorder d'attention. Et donc, le débat public, il s'organise comme ça. Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire à la fin? J'en sais rien, mais juste pour conclure, je reconnais bien, et je ne sais pas qui c'est derrière, j'étais en train de chercher, le talent de gens qui, comme moi, mettent en scène tout ce qui s'est passé là.
Parler du DG
parce
de SEB,
quand vous voyez une poêle avec le slogan qui est imprimé derrière, on fait venir des gens en bus, on les fait venir devant l'Assemblée, c'est qu'on est arrivé au point ultime.
Vous faites référence au directeur général du groupe.
On expose la colère.
Vous faites référence au directeur général du groupe SEB qui est venu manier la menace de l'emploi, de 3000 emplois sur les deux sites.
Rappelez-vous quand les Castorama et le roi Merlin étaient venus aussi manifester devant l'Assemblée nationale pour défendre leurs intérêts, parce que l'ensemble des discussions qui devaient précéder l'expression de la colère pour dire voilà jusqu'où on va, jusqu'où on privilégie l'emploi industriel aux dépens de la santé, toutes ces étapes-là, elles ont totalement échoué.
Dominique Corona.
Écoutez, ça démontre que même les employeurs peuvent aimer les syndicalistes et pousser les gens à la grève. C'est une bonne nouvelle, non? Parce qu'en plus, actuellement, il y a une loi,
qui veut
effectivement encadrer le droit de grève pour les cheminots. Alors, ils ont vite enlevé pour l'aérien.
Non,
pour les cheminots, c'est encore en route. Donc, ça démontre que finalement, eh bien, c'est bien d'avoir le droit de grève, puisque ça aide les patrons. Donc, il faudrait s'en féliciter. Donc, trêve de plaisanterie. Là encore, cette histoire, moi, elle me laisse pantoise. Une fois de plus, alors, on se sert de l'Europe. Alors c'est incroyable parce qu'il y a des directives européennes qu'on refuse de transmettre dans le droit français. Voilà, il y a des directives que l'Europe doit nous imposer de mettre entre droit parce qu'on veut pas le faire, parce que sur les directives, il y a certaines directives européennes qui ne conviennent pas à nos dirigeants. Et là, tout d'un coup, on se dit, on va laisser faire l'Europe. Alors qu'effectivement, c'est une prérogative, la santé et la santé publique de notre pays. Après, moi, je suis très interrogatif aussi sur le patron de SEB. Oui. Franchement, quand on est un grand groupe comme SEB, on doit travailler sur ces sujets-là. On doit préparer les transformations.
Mais ils travaillent forcément.
Mais donc, on doit préparer ces transformations. Mais donc,
forcément dessus.
Donc, on ne peut pas jouer l'opinion. Je comprends, moi, que les salariés aient peur des transformations. On parlera de l'IA peut-être tout à l'heure, transition écologique. Mais il faut les préparer. Il faut préparer ces transitions. Si on ne les prépare pas, bien sûr qu'on va à la catastrophe, qu'on va laisser des gens sur le côté. Mais qui a la responsabilité de ça? Au bout d'un moment, quand même, l'employeur. L'employeur qui doit lancer des recherches. L'employeur qui a le crédit impôt recherche à sa disposition pour le faire. Et il ne peut pas découvrir tout d'un coup qu'il y a des problématiques de santé publique extrêmement fortes sur ses poils.
Xavier, un mot là-dessus, puis après on parle de l'intelligence artificielle.
Oui, dans le cas du groupe SEB, je pense qu'effectivement il travaille, et la communication qu'on a vue mercredi ou jeudi, c'est une communication de crise, mais totalement incomplète. Donc là, si j'étais le chargé de la communication ou le conseil en termes de communication, j'aurais adjoint une dimension beaucoup plus positive en expliquant qu'on préparait la suite.
Bah là, il y avait le feu, sans doute, mais
le propre d'une communication d'une communication de crise, c'est de la séquencer pour qu'elle soit audible. Pose-toi la question des clients de SEB.
Bien sûr.
Je pense qu'aujourd'hui, même si la marque reste, je ne vais pas en contester la qualité de ses produits, mais il n'est pas impossible qu'une interrogation se pose. C'est tout.
Un mot de ce rapport, justement, par la transition énergétique qui a été remis au gouvernement ce matin, qui nous confirme, si on en doute encore, qu'à quel point il faudrait sortir des milliards tous les ans pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. L'Institut de l'économie pour le climat qui a planché sur trois secteurs, bâtiment, transport terrestre, agriculture, qui nous dit il va falloir mettre des milliards en plus tous les ans. Alors, ils disent à vue de nez entre 1 et 2,5 milliards d'euros de plus chaque année pour le logement, plus de 4 milliards pour le parc existant. Les transports, quelques centaines de millions à quelques milliards d'euros par an et environ 1,5 milliard d'euros par an dans l'agriculture. Ils ont l'humilité de dire qu'ils ne savent pas exactement combien il faut mettre. Ce qu'ils nous disent, en tout cas, il faut mettre maintenant, avant de subir les conséquences. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport? Qu'est-ce qu'il nous apprend, finalement?
Est-ce qu'on peut revenir, en faisant une forme d'épanadiplos, à ce qu'on disait au début? On a des chantiers incroyables à tous ensemble faire aboutir. Et pour ce faire, on a besoin, comme certaines entreprises, d'avoir un État qui est extrêmement sain, qui est capable de mobiliser énormément d'argent. Le rapport Fitoussi Mafouz l'a quand même extrêmement bien exprimé, même si les réponses, n'ont pas mis d'accord grand monde, mais la seule chose sur laquelle on agree to agree, c'est de dire ça va nous coûter énormément d'argent si on veut arriver à quelque chose dont on n'arrive pas encore à véritablement mesurer où sont les objectifs. Eh bien, on a besoin d'énormément d'argent, et cet argent-là, eh bien, on ne l'a pas. Regardez, aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a quand même endossé l'armure du grand écologiste lors de ces deux campagnes, eh bien, il ne cesse de reculer sur tout un tas de sujets, et notamment sur les grands sujets écologiques ces derniers temps. Donc c'est bien d'un côté qu'on ait un rapport qui dit il y a plein de choses à faire, ça va coûter très cher si on veut aller mieux.
C'est fin du mois désormais contre fin du monde.
Concrètement, on n'a pas les moyens de les mettre en place.
Non, on n'a pas les moyens. Dominique,
on a quand même eu un rapport de l'ADEME qui indique que si effectivement il y a le réchauffement climatique qui est indiqué en 2030, on va perdre 10 points de PIB par an.
Non, pas 10.
À peu près, c'est l'ADEME qui le dit. Et on a en face un investissement à mettre en place. Là encore, je vais vous dire, moi, ce qui va se passer.
L'ADEME, au niveau politique, c'est dans 6 ans. Enfin, c'est une éternité.
Oui, mais c'est pas une éternité quand on a le monde qui est en grande transformation.
À l'échelle du temps politique, c'est une éternité.
Et oui, mais à l'échelle du temps politique, c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il faut parler de l'intérêt général, pas des intérêts particuliers des gens qui se présentent. Et c'est là que nous, partenaires sociaux, nous avons, je pense, un coup d'avance. Et je pense que ce sujet, une fois de plus, j'espère que les partenaires sociaux, nous allons nous en saisir. Parce que derrière, il y a aussi des emplois.
On va vous laisser la possibilité de vous en saisir plus longtemps.
Mais parce qu'il va falloir qu'on y aille, parce qu'il y a de l'emploi derrière. Quand on dit qu'il va falloir investir dans le rail, dans les mobilités douces, c'est de l'emploi derrière qu'on va créer aussi. Donc il y a peut-être effectivement de l'investissement, de la dette au départ, mais de la création de richesses à côté. Et ça aussi, il faut le regarder avec un peu de recul. Et moi, je vous le dis, je pense que nous, les partenaires sociaux, si on est malin, on doit s'emparer de cette question tout de suite pour en faire un grand plan, effectivement une grande négociation sur ce sujet. C'est utile, il faut le faire. Parce que le gouvernement, justement, est dans l'immédiateté, alors qu'on est dans l'intérêt général et qu'on n'a plus le temps d'attendre.
Xavier Patrolin.
Moi, j'ai un avis assez différent. Je ne conteste pas du tout le réchauffement climatique, mais je pense qu'on n'a pas du tout les moyens pour préparer la transition. On ne sait pas allouer les forces au bon endroit. C'est un problème extrêmement complexe. On a abordé le réchauffement climatique de manière extrêmement dogmatique. Le Green Deal européen en est la parfaite expression. Voici une institution européenne qui c'était pas du tout au programme de l'élection européenne, et au fond l'Assemblée européenne, pour une histoire de compromis entre la droite européenne et le parti écologique, a mis en place le New Green Deal, et ce Green Deal est complètement comment dirais-je, contredit par la bascule géostratégique à laquelle nous sommes confrontés. Il est mis en place en 2019 ou 2020, oui. Et la bascule, bon. Le Covid plus la RSE, et ça invalide tout. Moi, je dis attention, pour les partenaires sociaux, faites très attention à ce que, comment dire, à vous approprier ce sujet-là, parce que prenons simplement le bâtiment. On va prendre un cas d'école. Ouais. Je vais prendre un cas d'école, je l'ai dit plusieurs reprises sur ce problème, mais je vais le redire parce que c'est quelque chose que j'ai entendu au cours d'une audition auprès du Parlement. Les sociétés HLM, il y en a 500 en France qui font actuellement de la réhabilitation. Vous savez qu'il y a à peu près 2,4 millions de foyers qui sont inscrits sur les listes d'attente des sociétés.
Pour un logement social,
ouais. Pour un logement social, donc ça veut dire 8 à 9 millions de personnes qui ne trouvent pas de logement social, donc qui sont dans des habitats plus ou moins précaires. Et vous avez 500 sociétés HLM qui font aujourd'hui de la réhabilitation. En faisant de la réhabilitation, donc elles convertissent des logements anciens à des nouvelles normes thermiques, donc il y a un bénéfice, il y a un bénéfice thermique sur le vecteur d'utilisation des énergies, il y a un bénéfice climatique, dont acte, mais le problème c'est qu'elles détruisent des fonds propres. Pourquoi ? Elles font des travaux et elles ne peuvent pas le répercuter sur les loyers. Donc la conséquence, les effets, ce qu'on appelle collatéraux des mesures qui sont destructrices au niveau du tissu économique et du tissu social. Donc faites très attention lorsque des partenaires, j'entends des partenaires sociaux, voire des acteurs qui, tels des évangélisateurs, disent c'est le seul, l'ultime combat, les autres ne comptent pas. Attention, vous sous-estimez les impacts de désagrégation que ça a au niveau sociétal. Et pour moi, c'est un vrai sujet, parce que je crains que des sociétés, et c'est peut-être ce qui va en train de se passer, et ce qu'on va découvrir le 9 juin prochain, au moment des élections européennes. On va assister à une bascule. Et cette bascule, pourquoi ? Une bascule qui va être favorable à la droite et probablement à la droite conservatrice, voire très conservatrice. Ça sera une contestation du Green Deal européen. Parce que j'ai l'impression que les populations européennes ne se sont pas du tout appropriées ce sujet. Elles sont bien d'accord sur le réchauffement climatique. Elles ne le contestent pas. Ce qu'elles contestent, c'est le cheminement que nous avons suivi. Et si nous n'avons pas tiré les leçons des gilets jaunes, à ce moment-là, nous allons devant de très grosses difficultés.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce n'est pas sur le Green Deal. Je veux dire, si les gens vont monter extrême droite, pour être très clair, c'est effectivement par cause des politiques d'austérité antisociales qui sont mises en place. Et les gens, ils en ont ras-le-bol. Et donc, ils ont un problème de pouvoir d'achat, ils ont un problème effectivement de travail, ils ont un problème d'accès aux soins, on y reviendra. Et en plus, c'est pas sur l'écologie. Je pense que l'écologie, tout le monde a conscience effectivement qu'il faut décarboner la société.
Mais d'accord, l'écologie punitive, l'économie punitive commence à faire du grabuge.
Ce n'est pas l'écologie punitive justement qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, il faut donc investir massivement. Et d'abord, le rapport, effectivement, Mahfouz, effectivement, Pisani-Ferry en parlait. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Attendre de perdre 10% de PIB et à la faillite, ou investir dès maintenant 70 milliards d'euros pour essayer de décarboner.
Vous avez raison, la non-action n'est pas une solution.
La non-action, c'est le pire.
Mais c'est un problème extrêmement complexe. Il faut cibler avec efficacité. Et ce sujet-là, je ne suis pas sûr que nous soyons à cette heure outillés pour pouvoir
réagir. C'est extrêmement grave, encore une fois.
Jacques qui n'a pas parlé encore.
Non, mais si, je vous disais tout à l'heure que j'avais une dimension très budgétaire qui était très importante pour moi. Je pense qu'il faut mener tous ces combats, et sur le domaine du logement, si on concentre les moyens uniquement sur le logement social, alors que le logement privé classique qui rapporte de l'argent et de belles marges, lui, est laissé complètement en déshérence et en train de mourir. Les promoteurs immobiliers sont en train d'exploser. Pour mener à bien ces grands enjeux, il faut une situation économique de l'État qui soit saine. Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché sur les gilets jaunes ? Revenons-en à ce qui s'était passé. On le sait très bien. Les économistes qui sont spécialistes de la contribution climat vous disent, il faut expliquer aux gens que l'argent qu'on prend là, on s'en sert pour le redistribuer aux perdants.
Oui.
Donc, on vous défonce votre bagnole au diesel, mais on vous aide à acheter une voiture électrique, mais avec des politiques globales. Ce qu'on ne sait pas, il faut financer les perdants. On n'a pas été capable d'expliquer ça. Et donc, nous avons transmis uniquement des messages qui étaient
l'écologie punitive.
L'écologie punitive. Mais voilà. Pour aller directement et sereinement vers l'avenir, il faut que l'État soit capable d'embrasser très largement l'ensemble des chantiers et d'avoir une situation économique et budgétaire qui n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et si on ne l'a pas, eh bien on ne peut pas faire de grands emprunts, on ne peut pas garantir auprès des institutions internationales qu'on sera capable d'investir massivement, comme peuvent le faire par exemple les Américains, parce que les Américains, de toute façon, quel que soit leur déficit, ils s'en foutent, et il faut encore en faire plus, parce qu'il y a des preneurs partout dans le monde.
Je crois beaucoup effectivement au dialogue social dans ce cadre-là, parce que dans les entreprises, on va être bien obligé de passer par le dialogue social pour décarboner effectivement les activités. Et je pense que nous, on va montrer l'exemple.
Et Monsieur Corona, un dialogue social qui ne dit pas aux gens, il y a des méchants qui gagnent beaucoup d'argent et il faut les taper parce que...
Je ne l'ai pas encore dit.
Il y a des grandes entreprises qui sont méchantes, il faut leur prendre pour leur argent.
Non, mais par contre, s'il y a un meilleur partage de l'effort, oui. Alors je dis pas que les gens sont méchants ou sont gentils. Ça, c'est un jugement de valeur que je
partez pas là-dedans à 3 minutes.
La charge de cette dette-là soit mieux répartie et que les plus hautes fortunes participent au mouvement. Effectivement, c'est pas moi qui le dis, l'économie de guerre que le président de la République met en avant. Je pense que c'est extrêmement utile et il faut le faire parce que sinon on pourra pas s'en sortir.
Qui va payer? Faut punir personne.
Je peux juste conclure sur
10 secondes.
Benaouda Abdelhaim, qui est journaliste sur cette antenne. Il sort des enquêtes internationales qui sont remarquables. Et un jour, il avait présenté une étude qui avait été faite en Finlande ou au Danemark. Et son étude disait, plus on dit aux riches qu'on les aime, c'est-à-dire qu'on leur donne des formes d'honneur, des médailles, etc., etc., et plus leur politique devient sociale dans leurs entreprises. Et donc, il disait, est-ce qu'il faut dire aux riches que ce sont des méchants et qu'on va tout leur prendre? Ou au contraire, leur dire, vous avez réussi à les donner un peu plus à ce qu'on vous aime. Et cette étude était scientifiquement prouvée.
Il y a une étude en France, sur la Suède et la France, qui avait l'impôt sur la fortune, qui démontre que les riches ne sont pas partis pour autant.
Allez, on n'aura pas le temps de parler d'intelligence artificielle. Pourtant, il y avait un sujet, mais on en parlera la prochaine fois. C'est l'heure de l'extra time, puisqu'il reste 3 minutes. C'est vos avis du soir, hein, vous le savez, 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur, mais en 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Xavier, est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes.
Oui, c'est un coup de gueule. On apprenait hier sur le site de BFM Business que Sanofi allait abandonner la ligne thérapeutique cancéreuse et donc allait remercier plus de 300 chercheurs. Ils ont dû toucher en crédit impôt recherche bénéficier, donc ils n'ont pas touché de l'argent, mais il y a une défiscalisation à la clé, probablement 1 milliard, 1,3 milliard sur les 10 dernières années. 300 chercheurs qui vont être remerciés. Moi, je ne sais pas, en ces temps d'économie budgétaire, je m'interrogerai sur la pertinence du dispositif et son efficacité. Dans le cas de Sanofi, je pense qu'il y a une petite question, voire une grosse question. Et dernier sujet, c'est la transformation d'un groupe qui était, il y a encore une quinzaine d'années, un très grand groupe pharmaceutique. Et j'ai l'impression, se transforme. Et cette transformation relève aujourd'hui beaucoup plus du déclin que d'une perspective intéressante sur le moyen terme.
Alors, c'est une bonne demi-douzaine de dirigeants en 15 ans.
C'est une incarnation du problème français.
Le drame de Sanofi. Jackie, c'est à vous, allez, 30 secondes.
On parle de temps en temps de cette belle association qui vient de se constituer avec nombre d'économistes d'entreprises qui s'appelle l'Éco-Avenir. Et ils ont calculé que la déclaration du gouvernement qui dit dans 3 ans, nous passerons de 3% de 5,5% de déficit budgétaire à 3%. Devrait demander un effort de entre 120 et 150 milliards d'euros. Et donc, ce sera gigantesque parce que ces 2,5 points qu'il faut gagner, eh bien, il faut rajouter 1 point qui sont la charge de l'intérêt de la dette, la baisse du cycle qui engendrera une baisse des recettes. Et donc, 150 milliards d'ici 2027. C'est totalement impossible.
Conclusion,
c'est déraisonnable de faire des déclarations comme ça.
Ah ben, on sera pas à moins de 3% en 2027, comme nous le prévoyait le gouvernement. Dominique Corona, 30 secondes, mon cher Dominique, c'est à vous pour conclure.
Eh bien, moi, je vous parlais de l'accès aux soins, dont l'UNSA a sorti une grande enquête sur l'accès aux soins, le moral des salariés, faite sur près de 1064 actifs et retraités du monde de France. Eh bien, figurez-vous qu'un Français sur deux annonce ne pas pouvoir se soigner et renonce à des soins. Et c'est en France que ça se passe. Alors, il y a plusieurs raisons. 64% parce qu'il y a des délais qui sont trop longs pour trouver un médecin. Parce qu'on n'a pas de rendez-vous pour 58% et le reste à charge financière est trop élevé pour 56%. Et on vient de parler des IJ et des ALD. Alors qu'on n'est même pas capable aujourd'hui en France d'assurer un soin correct, bien franchement, je pense que Bruno Le Maire ferait mieux de s'occuper des comptes plutôt que de s'occuper d'être ministre du Travail, président de la République et en plus Premier ministre.
Eh ben, il y avait des coups de gueule ce soir, si je ne me trompe pas. Hein. C'est comme ça. Ben voilà, c'était la couleur de ce vendredi. Merci messieurs, c'est terminé. Jackie Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci beaucoup messieurs, à très vite avec plaisir. 18h57, c'est fini pour ce soir. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazzella. On s'en retrouve bien sûr lundi pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.
Good evening business sur BFM Business.